Bonjour mes frères et sœurs, vous allez bien ce matin? Gloire à Dieu, nous allons prier le Seigneur Jésus. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de venir Mélodie et Eric et de permettre qu'ils puissent se reposer aujourd'hui après la nuit qu'ils ont passée. Merci de les fortifier, corps, âme et esprit. Tu les visites, Père, par le nom de Jésus-Christ. Tu les visites par ton esprit. Tu les régénères, tu les fortifies et tu leur donnes un bon moment ensemble. Merci Seigneur Jésus. De tendre ta main sur eux, qu'un esprit de sommeil vienne sur eux, un esprit qui vient de ton trône, et qu'ils puissent dormir un moment, être tranquilles. Merci Jésus de les réparer, de les bénir. Que ton nom soit glorifié, mon Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Il faut aller fermer cette fenêtre parce que je pense qu'il a ce chien ce matin, il est enragé. Je crois qu'on va le donner à un pauvre avec le rideau de la douche. Voilà. Vous savez, peut-être pas tous, enfin je ne sais pas, mais notre frère Arthur Alamand, pour lequel nous prions depuis des années maintenant, est parti vers le Seigneur. Et voilà, et ça fait bizarre de penser qu'il est parti. Il s'est battu. En fait, on a été attaqué par le cancer en même temps, et pendant tout ce temps, on a combattu ensemble, on a prié ensemble par l'internet, on se voyait, on s'entendait, on échangeait beaucoup. Et voilà, Sylvie, sa femme aussi, Daniel, écrivait. Et c'était un homme de foi extraordinaire parce qu'il s'est battu contre ce cancer pendant 5 mois et il a gagné en fait contre ce cancer. C'est autre chose qui l'a tué maintenant. Et c'est une infection qu'il a attrapée aux États-Unis et qui a, parce qu'il était quand même très affaibli, vous savez, quand on passe par les chimios, par toutes ces saletés, par ton Seigneur, mais c'est vrai que ça, d'un côté ça fait du bien, mais de l'autre côté ça tue aussi quand même. Hein. Mais notre frère s'est battu et c'était un courage formidable. Et puis même comme il était ferblant entier, il était remonté sur les toits pour encore poser. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire, de très impressionnant. Et je voudrais qu'on ait une pensée pour son épouse, ses filles et ses petits-enfants. Et puis aussi Pierre Gilbert, parce que je sais que Pierre Gilbert était très attaché. C'était certainement son meilleur ami. C'est Pierre Gilbert, vous savez, c'est l'escatologue qu'on a reçu, je ne sais plus combien, 4-5 fois au château. Et avec qui on est devenu amis. Et Arthur Alamand, c'est lui qui organisait toutes ces réunions en terre francophone, pas seulement en Europe. Mais aussi dans les îles, je ne sais plus où exactement. Enfin, ils ont fait un boulot formidable tous les deux. Depuis 20 ans, ils ont travaillé 20 ans ensemble. On prie pour eux. Jésus, je te prie de bénir Daniel, Sylvie, Lynn, les petits-enfants, Pierre, enfin tous ceux qui ont aimé notre frère Arthur, que tu les soutiennes dans ce moment. Je pense qu'ils sont aussi en train de te louer, d'être rassemblés dans la communion fraternelle pour un culte quelque part. Je te demande Seigneur de les bénir, de les fortifier, corps, âme et esprit, et de venir à leur aide et de mettre un baume sur leur cœur et de réjouir leur cœur de savoir que Arthur voit Jésus face à face. Merci mon Dieu, sois béni. Amen. Amen. Ça va? Ça va tout le monde?
Oui.
On va ouvrir les Écritures. Revoilà le chien. Quelle horreur, ce chien. Il a des moments où il est enragé, je ne sais pas ce qu'il a. Il doit être enragé. Bon, on va lire 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 16. C'est terrible, hein, je ne me vois pas vivre dans une maison sans chien. Mais celui-là, il est jeune, vivement qu'il vieillisse, hein, parce que les jeunes, mon Dieu... Enfin, les jeunes humains aussi, on a tous été bizarres en étant des jeunes humains. Hein. Mais on tirait pas sur la laisse comme ça. Hein. Non, il faut dire qu'on n'avait pas de laisse, c'est peut-être ça aussi. 1 Pierre 4, 12, 16. Alors, je lis. Mes chers amis, ne jugez pas étrange le feu ardent qui sévit au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Messie, réjouissez-vous afin qu'à la révélation de la Shekina, vous vous réjouissiez encore davantage. Vous êtes bénis si on vous insulte à cause du nom du Messie que vous portez, Et si l'esprit de la Shekinah, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, repose sur vous, vous êtes heureux. Qu'aucun d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, comme malfaiteur ou se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre en tant que croyant messianique, qu'il n'ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu par sa manière de porter son nom. Amen. Ce texte est magnifique, vraiment magnifique. Comme vous avez pu voir sur la première page de Révélation Bible, j'ai mis une photo de mon baptême dans l'océan. Ce jour-là, Michou et moi, on était baptisés dans l'océan. C'était l'océan Atlantique, c'était à Miami, il y avait des vagues. Je vous dis pas, il y avait des gens qui faisaient du surf juste à côté de nous. Ils passaient juste derrière nous. J'étais mort de trouille. Non pas à cause des surfeurs, mais à cause des vagues. Moi, j'aime pas l'eau. On a une piscine ici, vous m'avez vu mettre la tête sous l'eau? Jamais. J'ai une peur bleue de l'eau. J'ai failli me noyer 4 fois dans ma vie. Et c'est quelque chose qui, voilà, je préfère la douche à la baignoire. Mais enfin voilà, il y avait des grosses vagues ce jour-là. Et pour moi, c'était vraiment comme si la mort était présente. Vraiment, je vous assure, cet océan était terrifiant. Et en avançant dans l'eau, j'avais l'impression d'aller à la mort, vraiment d'aller à la mort. Pas très loin, comme je vous dis, il y avait des surfeurs, on a la vidéo encore de tout ça, et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé, pour ça qu'on regarde. Vous savez, que ce soit dans un baptistère bien tranquille, dans une église magnifique et tout, dans une eau qui ne bouge pas, ou que ce soit dans l'océan déchaîné, de toute façon, le candidat au baptême devrait avoir cette impression. Je vais dans ma tombe. Je vais dans ma tombe. Bien sûr, quand on entre dans les eaux du baptême, on n'a pas toutes les clés, c'est-à-dire on n'a pas toute la connaissance, on ne comprend pas tout. Moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre. Ce n'est qu'à l'école biblique, avec Jules Marcel Nicole, que là, j'ai vraiment saisi ce que c'était, ce baptême d'eau. Bon, on m'avait expliqué, mais je n'avais pas compris, je n'avais pas toutes les clés. Il faut dire aussi que ceux qui m'avaient enseigné ne les avaient pas toutes. Mais on obéit au ministère, aux ministres de l'Évangile qui sont là, qu'on connaît, et puis qui nous enseignent, et on obéit aussi à ce qu'on lit dans la Bible. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On voit que les apôtres baptisaient des gens dans l'eau, et donc on dit, bon, ben, faut le faire, hein. Moi, j'avais été baptisé en tant que bébé avec 3 gouttes d'eau. Je n'ai aucun souvenir, sinon 3-4 photos en noir et blanc avec mes parents, habillés en dimanche, devant l'église et tout. Mais quand on en est là, à être baptisé réellement, bibliquement parlant, on ne sait pas vraiment tout. Et puis on ne sait pas non plus ce qui va nous arriver après ce baptême, c'est-à-dire après cette mort. Après cette mort. Ce n'est que le début d'une vie nouvelle. Ce n'est que le début. Et quelle va être cette vie nouvelle? Bon, on n'en sait rien du tout. À quoi suis-je destiné? Maintenant, je me suis livré entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu fais de moi ce que tu veux. Tu prends ma vie, tu fais ce que tu veux. Quel est le sens que ma vie va avoir? Comment ça va être? Je pense que vous avez tous lu, ou du moins vous avez tous vu, Alice au Pays des Merveilles. Pense, hein. Il y en a qui font signe de la tête. Dominique, tu l'as lu ou tu l'as vu? Tu l'as vu. Je crois que beaucoup de personnes ont vu le dessin animé ou les films, mais il n'y a pas grand monde qui l'a lu. Toi, tu l'as lu. Parfait. Bon, on a au moins quelqu'un qui l'a lu. Eh bien, en tout cas, là, en plongeant dans les eaux du baptême, eh bien, et en ressortant des eaux du baptême, on peut dire que c'est un petit peu comme Alice qui traverse le miroir. Vous avez vu ce qu'elle trouve derrière, c'est vraiment étrange. Tout va être différent maintenant, parce que nous sommes différents quand on sort des eaux du baptême. Nous naissons à quelque chose de nouveau, à une nouvelle vie. Et on pénètre dans un autre monde, réellement, on pénètre dans un autre monde. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai découvert un univers où j'avais plus du tout mes repères. Il y avait des choses que je pouvais plus faire, que je peux plus dire. Bien sûr, j'avais les paroles de Jésus qui dit « Sois inoffensif comme la colombe et sois prudent comme le serpent » dans Matthieu 10, 16. Ça, tout de suite, j'ai eu ça dans mon cœur en lisant les textes. Ça m'avait frappé plus qu'autre chose, mais En tout cas, je savais que ça laissait présager qu'il y allait y avoir des problèmes. Il allait y avoir des problèmes. S'il faut être prudent ou inoffensif, ça veut dire que bon, ça va pas être facile, facile, hein. D'ailleurs, Raphaël me l'avait bien dit. Jésus a jamais dit qu'il nous ouvrait la porte et puis que derrière, ça sera un chemin de roses, de pétales de roses. Non, c'est pas mal d'épines aussi. Donc, tout de suite après le baptême, dans l'église de Jésus-Christ, j'ai pu avoir accès au sang et à la chair de Christ. Alors, j'ai pris le pain et le vin, mais je n'ai pas compris la portée du symbole tout de suite. Symbole ? Oui, parce qu'à l'époque, on m'avait dit que c'est un symbole. On m'avait expliqué ça comme ça. Dans l'église, il y a des ministres qui enseignent, et très souvent, ils n'enseignent pas les nouveaux comme ils enseigneraient les anciens, des gens qui sont bien mûrs. Alors, voilà, ils enseignent voilà, que c'est des symboles. En fait, ils nous parlent comme à des bébés, et c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut pas supporter, qu'on peut pas comprendre. Jésus lui-même, il disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous trouvez ça dans Jean, chapitre 16, verset 12. Donc, à ses disciples, il n'a pas tout dit. Quand vous lisez les évangiles, ben, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Et puis, il leur dit que le Saint-Esprit les guidera en toute chose. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Ça, c'est au verset 17 du même Jean 16. Alors, ce que Jésus disait, et ce que vous trouvez dans les quatre évangiles, ça n'est pas la totalité du message. Ça n'est pas la totalité de la révélation. Alors, les apôtres ont eu des révélations, ils les ont données. Mais ils les ont donnés, en général, ils n'ont pas écrit ça en pensant nous instruire. Ils répondaient à des questions ou à des situations qui étaient celles des églises du coin. Et puis, de temps en temps, on peut trouver une bribe d'informations. Vous dites, ah bon, c'est ça. Mais en réalité, voilà, on est encore bien pauvre. On a besoin d'avoir davantage. C'est pourquoi c'est bon que le Saint-Esprit lui-même nous enseigne. Et c'est son rôle, c'est le rôle du Saint-Esprit de nous guider depuis la première Pentecôte, parce que nous n'avons pas toute la vérité. Ce que nous avons, c'est la vérité, mais c'est pas toute la vérité. C'est clair ? Et le Saint-Esprit nous guide, mais il nous guide pas tous de la même manière. Pourquoi ? Ben parce que de nouveau, le Saint-Esprit se trouve avec des gens, comme Jésus se trouvait avec des gens qui étaient plus ou moins aptes à recevoir les choses de Dieu. Alors quand le Saint-Esprit rencontre une personne qui aime Jésus, mais qui a une foi un peu timorée, il lui enseigne pas toute la vérité. C'est pas possible, il pourrait pas le supporter, il tomberait, il dirait non, c'est pas possible. Alors il y va mollo, et c'est comme ça. Vous comprenez ? Je pense que c'est normal, vous comprenez. Donc, dans l'Église de Jésus-Christ, les enseignants enseignent selon le niveau de l'auditoire qu'ils ont. Et ils entraînent leur auditoire sur les hauteurs, mais il y en a toujours qui restent un petit peu en arrière. Et moi, pendant longtemps, j'étais freiné parce que j'avais des gens qui traînaient, j'en voyais même qui dormaient. J'en avais une, juste en premier rang, elle dormait, les jambes grandes écartées en mini-jupe, c'est une horreur, j'avais beau lui dire, il n'y a rien à faire. Même son mari disait rien. Il y a de tout dans les églises, donc faire attention, un pasteur ne peut pas dire des choses sacrées, dire des choses très saintes. Il y a des auditoires, c'est pas possible. Il a fallu attendre. Je parlais en petit comité, je parlais à certains, et petit à petit. Mais maintenant, c'est fini, je dis tout. Ce que je reçois de Dieu, je le dis. Et si ça vous plaît pas, ben ma foi, tant pis. Hein. Parce qu'on arrive à la fin, mes frères et sœurs, on arrive à la fin. Donc, dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des enseignants qui enseignent selon le niveau qu'ils voient dans leur auditoire. Puis je dois dire aussi que certains n'enseignent que des rudiments parce qu'ils ne connaissent que des rudiments. C'est des gens, vous savez, qui ne font pas de cours de rattrapage. Dans n'importe quel métier, eh bien, il y a des moments où vous devez aller faire des cours de rattrapage parce que ça a évolué. Hein ? Mais les pasteurs, non. Ils pensent que, disons, ouais, c'est bon. Je fais l'école biblique, ça suffit. J'ai lu tout Watchman Nee, ça suffit. Voilà. C'est terrible, hein? C'est terrible. Donc, ils ont des rôles. Le Saint-Esprit veut nous guider, c'est-à-dire nous conduire du point où nous sommes jusqu'au point où il veut que nous arrivions. Et le point où il veut que nous arrivions, c'est très élevé. On n'a pas le temps de s'amuser. Alors, même si on ne comprend pas, il ne faut pas se bloquer, il faut dire « je ne comprends pas, mais je crois ». J'accepte, je crois. Le Saint-Esprit me conduit dans toute la vérité. Je prie pour ça, je crois que c'est ça qui m'arrive. Amen. Et comme ça, alors, notre intelligence va pouvoir être ouverte par le Saint-Esprit. Mais si on se bloque, c'est fini. C'est terminé, le Saint-Esprit le laisse tranquille, il nous laisse tranquille. Au commencement de ma vie chrétienne, il me semblait que je savais tout. C'était formidable. C'est une telle révélation que j'ai reçu de Jésus-Christ, que pour moi, il me semblait que j'avais la réponse à toutes les questions. En fait, chaque fois qu'on posait une question, j'avais la réponse. Bon, maintenant, je m'aperçois que les questions qu'on posait n'étaient pas terribles, mais vous voyez, c'était une impression extraordinaire de plénitude. En fait, oui, j'avais tout pleinement en Jésus-Christ. C'est ça qui me donnait cette impression. Mais il me manquait l'expérience, parce que l'expérience donne le savoir, la connaissance. C'est aussi quelque chose de très important. L'expérience nous donne des clés. La connaissance vient beaucoup par l'expérience. Si on reconnaît le Seigneur, notre Dieu, dans toutes nos voies, alors à ce moment-là, notre connaissance augmente et ce tout que nous avons en nous-mêmes commence à devenir quelque chose qui monte à la surface et qui est visible même, qui est visible. Sinon, on tourne en rond, de réunion en réunion, et puis, voilà, alors à dimanche, je vous bénisse, bonjour, ça va, oui, ça va, on a eu un bon culte, bon, alors à dimanche, je vous bénisse, on tourne en rond, puis on n'apprend jamais rien, puis on se rend bien compte, on n'apprend jamais rien, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour apprendre, on a déjà tout pleinement Jésus-Christ, donc ce qui compte, c'est de venir louer le Seigneur, alléluia, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, comment ne pas te glorifier, alléluia, 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 puis au revoir mon frère, à dimanche prochain, et puis on croit que c'est... Voilà, on a arrêté de fumer, on a arrêté de se bourrer la gueule, on fait pas, on pense que c'est ça, ça suffit. Mais non, ça suffit pas. Dieu veut nous faire monter des marches, il veut nous faire gravir des marches. Si je dis qu'il veut nous faire gravir des degrés, on va dire, ah, ça c'est du vocabulaire franc-maçon. Alors j'évite le, je dis des marches à la place, mais c'est la même chose. Par exemple, ce n'est que plus tard que j'ai su que le vin ne représentait pas le sang, mais que je devais le boire comme étant le sang de Christ réellement. C'est plus tard que j'ai appris. Je ne crois pas dans la transsubstantiation des catholiques. Ça, c'est encore une perversion de la chose. Ni à la consubstantation, je ne sais plus comment ils appellent ça, des protestants, c'est encore un truc bizarre. Non, non, non. C'est une question de ma foi. Je dois le boire comme si je buvais réellement, comme si je bois réellement. Et je bois réellement le sang de Jésus-Christ quand je prends la Sainte Cène. Et c'est la même chose pour sa chair, c'est la même chose pour son pain. Mais il a fallu du temps jusqu'à ce que je l'admette, jusqu'à ce que je le croie. Pourquoi ? Parce que dans ma conscience de chrétien évangélique, j'avais ce pendant catholique qui me disait « eux, ils ont tort, donc c'est nous qui avons raison, point barre ». Et puis je ne m'en occupais plus, jusqu'au moment où le Saint-Esprit m'a conduit dans la vérité. Vous voyez, il a fallu du temps. Non, Dieu ne m'en a pas voulu, il n'était pas fâché après moi. Mais maintenant que je sais, eh bien, si je revenais en arrière, si je recommençais à dire « Seigneur, bénis ce vin qui représente ton sang », ça serait une hérésie. Pour moi, devant Dieu. Maintenant, je ne dis pas que c'est une hérésie pour ceux qui le font et qui le croient, parce qu'ils n'ont pas reçu, il y a quelque chose qui leur manque dans leur connaissance. Mais on évolue ou pas. Et quand on évolue, on ne se moque pas de ceux qui n'ont pas évolué, mais simplement on les instruit. Il y a un petit proverbe qui dit « je ne parle pas aux... » parce que ça les instruit. Non, un pasteur, il parle à tout le monde normalement. On doit parler à tout le monde, on doit instruire les gens. Il faut que nous puissions tous gravir ces marches ensemble. Si nous avons l'amour fraternel, eh bien, nous nous exhortons les uns les autres à monter les marches. Même si des fois il y a une marche un peu plus haute ou alors qui est un peu bancale. Parce que des fois, il y a des marches qui paraissent bancales. Et alors on se dit, est-ce que vraiment c'est juste... il faut d'abord poser le pied, puis petit à petit, les choses se font. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça ? Bien sûr, on a tous expérimenté ça. C'est vraiment sa chair. Les deux sont vraiment une nourriture et un breuvage, comme dit Jésus. C'est une nourriture, c'est-à-dire que quand je prends le sang de Christ et que je mange sa chair, c'est vraiment une nourriture. C'est la meilleure nourriture qui existe. C'est vraiment la vérité. Pour être vivant, Jésus dit, celui qui fait cela, il a la vie. Hein? Alors, je n'ai pas besoin de dire ce que je ne crois pas. Je ne suis pas là pour prêcher ce que je ne crois pas et puis essayer de dire, voyez, ça c'est faux, puis ça c'est juste. Je dis ça, puis maintenant, vous cherchez. Et si vous avez une bonne intention, le Saint-Esprit va vous le révéler et il n'y aura plus aucun problème si vous avez une bonne intention. Je suis appelé à dire ce que le Seigneur m'a révélé et ce qui est venu jusqu'à moi et que maintenant, je sais être la vérité. Et puis, suite au baptême d'eau, suite au sang et à la chair de Jésus-Christ, il m'a fallu attendre dans ma chambre haute jusqu'à ce que je sois non seulement habité, mais aussi immergé dans le Saint-Esprit. C'est différent d'être habité par le Saint-Esprit et d'être immergé dans le Saint-Esprit. Lors de ma conversion, le 1er juin 68, Jésus souffla sur ma vie, et là j'ai reçu le Saint-Esprit, comme les disciples. On trouve ça dans Jean 20, 22, 24. Oups là, parce que j'ai mis ma Bible. Jean 20, 22, 24. Où il dit, or Thomas, qui signifie jumeau, alors, c'est pas ça, ben alors ma référence. Jean 20, 22.
Oui, c'est ça.
Ah oui, c'est simplement moi qui me trompe de passage. Ayant dit cela, il souffla sur eux et dit, recevez le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et si vous les retenez, ils seront retenus. Voilà. Et bien là, moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur moi, j'avais bel et bien le Saint-Esprit, j'avais vraiment reçu le Saint-Esprit. Et c'est une bonne chose, c'est la vérité. Mais j'avais certaines clés avec ça, le pouvoir de pardonner des gens ou pas, et puis de guérir des malades aussi, je m'en suis rendu compte. Et puis j'ai dû attendre, comme les disciples aussi ont dû attendre à Jérusalem, et ce n'est que plusieurs jours après à Jérusalem qu'ils ont été immergés, c'est-à-dire baptisé dans le Saint-Esprit. Vous avez ça dans Actes chapitre 1, verset 4. Donc, Jésus leur parle. Au cours d'une de leurs rencontres, il leur recommanda de ne pas partir de Yerushalayim, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé par ma bouche, car Jean immergeait les gens dans l'eau, mais dans peu de jours, vous serez immergés dans le Ruach à Kodesh, c'est-à-dire dans le Saint-Esprit. Mais il avait déjà soufflé sur eux. D'accord, ça c'est une chose, mais maintenant il faut que vous soyez immergés, il faut que vous soyez baptisés dedans. Et ce n'est qu'en acte 2 qu'ils ont été immergés dans le Saint-Esprit. Après avoir attendu dans la chambre haute avec les femmes, ils étaient 120. Est-ce que vous voyez? C'est un chemin. Et c'est un chemin qui monte. Et je dis que c'est un chemin qui monte avec des marches. Il y a des marches. Un peu comme l'échelle de Jacob, si vous voulez. C'est une initiation. Un escalier à gravir. Des degrés à monter. Mais il n'y a pas que 33 degrés chez nous, hein, comme chez les francs-maçons. Il y en a qui vont dire, « Ah, chez les francs-maçons, il a parlé de degrés. » C'est presque obligé que des gens pensent ça. Le baptême d'eau, c'est la porte de la mort au monde. On doit passer par là. Si on passe pas par là, eh ben, il nous manque quelque chose qui fait que dans notre vie, il y a des trucs qui sont tout de travers. Parce que on n'a pas passé la bonne porte. On est entré par la fenêtre, si vous voulez. On n'est pas entré par la porte. Mais est-ce que je pouvais comprendre tout ça en 1968? Non! Forcément, non, je ne pouvais pas comprendre tout ça. Mais il y a eu un dialogue qui avait commencé avec le Saint-Esprit à partir du moment où il m'a convaincu de pécher, ce 1er juin 68. Il y a eu un échange au-delà du visible, au-delà des doctrines que des gens viennent vous raconter sur YouTube ou je sais pas trop où. Alors là, maintenant, il y a un nouveau truc, c'est la terre est plate, vous avez vu? Alors ça, c'est vraiment... Il y a des chrétiens qui croient, hein? La terre est plate. Ah bon? Et soutenue par des piliers, qui eux-mêmes sont soutenus par, je sais pas, une espèce de montage. Je comprends pas. Alors, de toute façon, elle peut pas être plate, ça doit être un cylindre, parce qu'il y a une certaine profondeur, on peut creuser dans la terre. Donc, si c'est un plateau... Mais il y a une certaine largeur, épaisseur, donc c'est un cylindre. Alors quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit la Terre est plate, vous dites, oui, peut-être bien, après tout, peut-être un cylindre. Et après vous allez voir comment ça... Ouais, non, c'est incroyable, maintenant les gens sont... Ils adorent ces histoires-là. Oh, là, sur YouTube, il y en a, mais il y en a. Vous pouvez passer des heures, perdre des heures à regarder toutes ces choses-là. Et ça change quoi dans la vie? Est-ce que ça met du beurre dans les épinards? Rien du tout. Ça change rien. Moi, je suis ce que le Seigneur dit, la Bible dit que c'est un globe. Voilà. Point. C'est un globe. C'est Moïse qui dit ça. Alors, si Moïse disait ça il y a des milliers d'années en arrière, ceux qui sont aujourd'hui au 21e siècle et qui disent que la Terre est plate, ils ne sont même pas au Moyen-Âge, ils sont encore, je ne sais pas, oncre de l'homme des cavernes. Et puis l'homme des cavernes ne se posait même pas ces questions. Pardon, Seigneur, je me suis moqué des gens. Ouais, mais enfin, ça m'énerve, quoi. Donc, voilà, faut que j'en parle aussi un petit peu, que je dise des choses. Donc, il y a un dialogue, un échange au-delà du visible. Voilà, c'est ça qui m'a fait penser à ça. Au-delà du visible. Quand vous voyez la Terre, vous vous dites, oui, c'est vrai, ça a l'air plat. Enfin, il y a des montagnes et des collines. Bon. Moi, je pense qu'elle est concave. Ne serait-ce qu'à cause des deux mots dont le mot concave est formé. Vous avez des tas de gens qui sont des véritables caves, puis, donc, voilà. Et elle veut bien, je veux bien qu'elle soit concave. Un échange, il doit y avoir un échange avec le Saint-Esprit au-delà du visible, au-delà du dissible, D-I-C-I-B-L-E. J'ai cherché dans un dictionnaire, pourtant c'est un bon dictionnaire, et bien il n'y est pas, le mot. Pourtant il existe, hein, mais il n'y est pas, dans mon dictionnaire il n'y est pas. Regardez dans le vôtre s'il y est, par contre si vous avez regardé l'Internet, il y est quand même, parce que l'Internet c'est quand même très très bien, il n'y a pas que... des âneries de la terre plate, il y a beaucoup d'autres choses très très bien. Le mot disciple, c'est pas très étonnant que dans les, même les bons dictionnaires, il n'y ait pas, parce que c'est un mot qui n'est pas du tout utilisé, en tout cas il n'est utilisé que par ceux qui cherchent les choses de l'esprit. J'explique. Une chose disciple, c'est une chose qui peut pas être, c'est une chose qui peut être dite. Qui est exprimable avec des mots. Et là, dans l'Église de Jésus-Christ, dans la prière, dans les jeûnes, dans la communion fraternelle qui nous permet d'avoir des échanges, j'échange avec mes frères et sœurs, en qui vit le Saint-Esprit aussi, et je peux recevoir des révélations de leur part, dans l'absorption du sang et de la chair de Jésus-Christ, eh bien, je commençais à avoir un dialogue avec le Saint-Esprit. Et ça continue, un dialogue au-delà du disciple, c'est-à-dire au-delà de ce qui peut être dit avec des mots. Voilà pourquoi ces choses ne peuvent pas être reçues si elles ne sont transmises qu'avec des mots. Parce que les mots sont jamais exactement... ce qu'ils veulent vraiment profond. Ils ne veulent pas dire vraiment ce que... Au sujet des choses de l'esprit, on ne peut pas mettre des mots dessus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai vu des choses... Ce n'est pas possible, on ne peut pas dire, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Il faut, pour qu'elles soient comprises, qu'elles soient révélées. Or, la révélation, c'est une affaire d'esprit. C'est l'esprit qui parle à notre esprit et ça fait la lumière. Mais vous avez des gens qui ne veulent pas. Pourquoi? Parce que, à cause d'un passé, peut-être, comme moi, par exemple, avec cette histoire de pain et de vin, je ne voulais pas croire autre chose que ce que l'Église évangélique disait, parce que je disais, c'est nous qui avons la vérité, par rapport aux catholiques. Et vous avez des gens qui ne veulent pas croire quand une révélation arrive, parce qu'ils veulent croire ce qu'ils ont toujours cru, ils ne veulent pas bouger de là. Est-ce qu'on peut les condamner? Non, on ne les condamne pas, mais simplement c'est dommage pour eux parce qu'ils n'avancent pas. Et quand on avance, alors ce dialogue, il s'amplifie. Et c'est toute la vie, c'est un chemin de toute la vie. On n'a pas fini d'apprendre, je suis très content parce que si j'avais conscience que je sais tout, Mais j'oublierai plus ma Bible, et puis je lirai quoi alors, Tintin? J'ai déjà tout lu. Il y a beaucoup de choses à lire, mais bon, voilà. Moi, il y a la Bible, ça me passionne, le livre de Mormon aussi. Depuis qu'Élie a donné ses clés à Joseph Smith le 3 avril 1836, si vous ne savez pas de quoi je parle, achetez-vous un livre de Mormon, ça ne coûte pas cher, vous pouvez le commander sur Internet. Beaucoup de choses ont changé dans la vie de ceux qui les ont reçus. Qui ont reçu quoi? Qui ont reçu ces clés. Mais c'est quoi ces clés? Ben, je ne veux pas vous le dire. Il faut que vous cherchiez. La Bible dit, ça ne sert à rien de donner comme ça, n'importe comment, à n'importe qui. Ça ne sert à rien. Mais qui a reçu ces clés? Qui? Alors, il y a très peu d'évangéliques, c'est dommage. C'est très peu d'évangéliques qui ont reçu, simplement parce qu'ils disent, non, c'est nous qui avons la vérité. Ils ont un orgueil démesuré. C'est terrible. C'est terrible. L'autre jour, je parlais avec une sœur en Christ, et je lui parlais de 1 Thessaloniciens 4,16. Vous savez, le passage où il est dit, au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette, nous serons levés à la rencontre du Seigneur. Alors elle me regardait avec des yeux tout ronds, et je lui demandais si elle savait ce que c'était le signal donné. Et elle a eu l'honnêteté de me dire non, non, je ne sais pas. Alors je lui expliquais que c'était Élie qui doit venir juste avant le jour de l'Éternel. Comme c'est écrit dans Malachie 3, 23-24, qui doit venir pour rapprocher le cœur des enfants vers le cœur des parents, lier les familles, sceller les familles, etc. Ce qu'on fait, ben voilà. J'expliquais donc voilà que Élie doit venir, je lui montrais le texte et tout ça. Elle me dit, ah bon? Alors je lui dis, mais il est déjà venu. Aucune réaction. Aucune. Rien. Pas de... Ah bon, mais c'est qui, comment non. Alors je n'ai rien dit de plus, vous voyez, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien du tout. Il y a des degrés et des marches que nous devons franchir. Si on n'en est qu'à la marche 2, ça ne sert à rien d'essayer de faire grimper les gens à la marche 10, ils vont faire un grand écart et vont se faire mal. Vous voyez, ça ne sert à rien, il faut les laisser suivre leur chemin, ils suivent leur chemin, ils cherchent s'ils veulent, ils ne cherchent pas s'ils veulent pas. Cette sœur a des choses à apprendre, mais moi j'ai aussi des choses à apprendre, qui suis-je pour la juger? On a tous des choses à apprendre, mais c'est pour vous donner un exemple, c'est dommage. On était là, c'était facile, il suffisait de parler, mais quand j'ai vu que ça n'intéressait pas, on va reparler d'autre chose, de la terre plate. Mais ceux qui disent, j'ai besoin de rien, ça c'est une autre attitude. Ceux qui disent, non, j'ai besoin de rien, je sais tout, je suis riche, je me suis enrichi spirituellement, j'ai tout. Comme ceux de l'Odyssée, hein, dans Apocalypse 3:17, je n'ai besoin de rien, je prêche le plein évangile, je crois le plein évangile, il n'y a rien d'autre que ce que je crois. Qu'est-ce que vous direz à des gens comme ça? On peut pas ça. Là, c'est autre chose. Ceux-là, ils restent bloqués là où ils sont et ils iront jamais plus loin et ils hériteront, n'est-ce pas, d'une vie éternelle moindre. Ah bon, on peut avoir une vie éternelle moindre, mais bien sûr, ils brilleront comme les étoiles ou comme la lune, mais en tout cas jamais comme le soleil, le soleil de justice. Vous savez, c'est Paul qui parle de ça en disant qu'il en est de même à la résurrection. Il y en a qui hériteront. Qui ressusciteront comme des étoiles, d'autres comme la lune, d'autres comme le soleil. Il y a des degrés. Les degrés qu'on monte ici, quand on meurt, c'est sur ces mêmes degrés qu'on se trouvera. 1 Corinthiens 15:41. C'est tout. Ah, oh, Michel, alors t'es un ambitieux, tu veux aller tout en haut. Non, je suis pas un ambitieux, je suis un amoureux de Jésus. J'aime tout ce que Jésus dit, j'aime tout ce que je lis, je veux savoir davantage. C'est vrai que j'ai un esprit curieux. Déjà avant, dans le monde, j'avais un esprit curieux. Mais Dieu s'est servi de cet esprit curieux que j'ai pour le mettre à contribution dans l'Église. Et ainsi je trouve des choses et puis je les donne. Comme Mme Osborne, vous vous rappelez, frère Osborne nous disait, c'est incroyable. Mon épouse, elle trouve tellement de choses dans la Bible au sujet des femmes, on dirait que la Bible ne parle que des femmes quand on écoute mon épouse. Parce qu'elle était curieuse, elle avait un besoin, il fallait qu'elle apprenne pour pouvoir communiquer avec les femmes. Et quand on a cet esprit-là, alors on va de plus en plus loin et on entraîne avec nous des gens de plus en plus loin. Vous voyez, la première révélation que donne le Saint-Esprit, c'est la révélation de notre état de péché. Et puis, si nous l'écoutons, il nous révèle d'autres choses. Si on ne l'écoute pas, Alors, on a ce malaise. Oui, je suis dans le péché, je suis pas bien. Ouais, mais de toute façon, tout le monde est dans le péché. Alors, je crois que Dieu finalement est amour et puis il va sauver tout le monde parce que comme on est tous dans le péché. Puis alors, on se fabrique des doctrines à la noix de coco. Et puis, c'est pas juste. C'est pas juste. Il faut écouter ce que le Saint-Esprit dit. Alors, si on écoute quand il nous convainc de péché, si on fait ce qu'il dit, eh bien alors il nous révèle qui nous sommes, c'est-à-dire ce qui est caché au fond de nous. Il y a quelque chose au fond de nous qui est caché quand on vient au monde, on ne sait pas. C'est une pierre que nous sommes et qui sert dans la construction de l'œuvre dont Jésus est la pierre de fait. Vous comprenez? Mais nous sommes une de ces pierres, l'apôtre le dit, nous sommes une pierre vivante. Mais voilà, cette pierre qui est en vous, elle est en or. Elle est en or. Mais elle doit passer au creuset. Elle doit être purifiée de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui la coince, de tout ce qui... Pour pouvoir faire vivre cet or, il faut d'abord mourir. Il faut d'abord mourir. Si le grain ne meurt en terre, Jésus disait, il reste stérile. Si au contraire, il se vide de sa substance et meurt, il devient un germe et ensuite il devient une moisson. Je paraphrase un peu, mais c'est ça. Jean 12, 24. Cet or qui est en vous, il est vous, mais il est caché. Il doit être manifesté. Mais plus il se manifeste sur terre, plus il aura de manifestations dans les mondes futurs. Voilà pourquoi il y en a qui brillent déjà sur terre et puis d'autres pas. Et bien ceux qui brillent déjà sur terre, ils brilleront là-haut aussi encore plus. Parce que tout ce que nous sommes ici-bas et que nous manifestons ici-bas sera magnifié, glorifié, exalté alors que nous quitterons ce monde. Mes frères et sœurs, quand l'Esprit est venu sur vous, quand Jésus a soufflé sur vous, il a impulsé l'énergie d'une création en potentialité. Voilà ce que Jésus a fait en soufflant sur ses disciples. Il leur a insufflé, il a impulsé l'énergie. Le Saint-Esprit, c'est la lumière, c'est la vie, c'est l'énergie. Voilà pourquoi je dis énergie. Mais il a insufflé en vous l'énergie d'une création en potentialité. Vous avez beaucoup de gens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais quand vous regardez leur vie d'avant et leur vie de maintenant, c'est pareil, sauf que, bon, ils fument plus, ils disent plus de gros mots, voilà, il y a certaines choses qu'ils font plus et tout, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont au culte, voilà. Jésus a mis la semence disciple qui doit donner qui doit arriver à un aboutissement, c'est-à-dire sur terre être un maître, parce que tout disciple accompli devient comme son maître, c'est-à-dire que vous devez devenir comme Jésus était sur cette terre. Jean le dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais exactement comme les spermatozoïdes, un spermatozoïde, il doit accepter d'être dissous et de se fondre dans l'œuf. Il doit accepter, et vous devez accepter de vous dissoudre pour nourrir le processus qui est déjà inscrit en vous. Mais il faut le nourrir. Et on ne le nourrit que par le renoncement. C'est pour ça que Jésus dit renoncer à vous-même. Ça ne veut pas dire... habillez-vous crade, pas à la mode, renoncez à vous, ça veut dire manger des choses pas bonnes, ne surtout pas aller au spectacle, c'est pas ça que ça veut dire. Le profane doit mourir pour qu'un disciple, puis un maître, puis une épouse puisse naître. Mais on commence tout en bas, comme chez les francs-maçons. Mais oui, comme chez les francs-maçons, mais ils ont rien inventé ces bougres. C'est nous qui avons la vérité, amen. Ça fait que nous copier, c'est tout. Maladroitement en plus. Et puis pour d'autres buts. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. Alors, pratiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on visite de plus en plus le temple de Dieu que nous sommes. On entre en nous-mêmes. On rencontre l'habitant du temple, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est un voyage intérieur. Attention, ce voyage intérieur n'est pas une introspection. Ça, c'est le mauvais côté de la chose. Les gens qui sont toujours en train de chercher le mal qu'ils auraient pu faire. Oh, qu'est-ce que j'ai dit, non, c'est pas ça. C'est une visite en nous-mêmes, une visite guidée par le Saint-Esprit. C'est lui le guide. Et avant tout, il veut que nous sachions qui nous sommes. Trop de gens se lancent dans la prédication pour changer les gens, changer le monde, alors qu'il n'y a aucune transformation dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas fait cette visite guidée par le Saint-Esprit en eux-mêmes, ils ne se connaissent pas. Ils disent « Je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature. » Mais quelle nouvelle créature? C'est quoi cette nouvelle créature? Comment elle bouge? Comment elle fonctionne? Comment ça marche? Avec quelle loi? L'amour est un bouquet de violet. Oui, ça. Ouais, ça peut être très bête, hein. L'amour, ça, alors là, on couvre tout avec ça. C'est l'amour. Et donc, ils n'ont pas transformé ce qui doit l'être, c'est-à-dire cette pierre qui est authentiquement de l'or, mais qui doit être éprouvée par le feu. Voilà une des raisons de la stérilité des gens dans l'Église, parce qu'ils sont victimes de bricolage de la part de ceux qui les baratinent. En suivant le Saint-Esprit, qui va te guider en toi-même, pour te faire découvrir qui tu es, tu passeras par des moments difficiles, c'est le creuset. C'est l'endroit où ça chauffe. C'est l'endroit où ça chauffe. Pour moi, ça a commencé tout de suite. Tiens, je vais balancer un nom. Le premier charbon qui a brûlé sous la cocotte, il s'appelait Keshta. Il m'a accusé d'horreur. Mais j'avais quelques mois de conversion, ça aurait pu me faire tomber. Hein. Ça aurait pu me faire tomber. Mais non, ça a été brutal. Et heureusement Camélia était là, heureusement le Cossack était là, heureusement Raphaël était là. Ils m'ont expliqué ce qui était en train de se passer. Ils m'ont dit, non mon frère, il faut que tu tiennes bon, tu vas être justifié. Hein? Dieu trouve que c'est bon pour le jeune de passer dans le creuset de l'épreuve comme ça, dans sa jeunesse, qu'il mette sa bouche dans la poussière, mais sans se désespérer, Dieu va le justifier. C'est dans Lamentations Jérémie 3. Ça m'a tenu pendant un an ce verset. Je me suis accroché à ce verset. J'ai tenu, je suis encore là. Ça fait combien d'années? Depuis 69. Ça a été brutal, hein? Très brutal. Mais je ne regrette rien du tout. Dieu m'a justifié. Donc il faut accepter de bouillir. Ça va bouillir. Les vieux comprendront ce que ça veut dire. C'est un vieux feuilleton radiophonique. Accepter de bouillir dans le creuset de Dieu. Il faut accepter. Quand je vous ai dit tout à l'heure, le spermatozoïde il doit accepter de se dissoudre dans l'œuf. Ben là, c'est une autre image pour dire la même chose. L'acceptation, un renoncement. Sinon, ben, vous risquez d'aller bouillir en enfer. Hein. Je plaisante pas. Parce qu'à force de tourner en rond, au bout d'un moment, vous risquez de dire j'en ai marre, puis vous balancez tout. Le monde est bien plus amusant que l'Église. Moi, c'est en tout cas pas grâce à l'Église que je continue à marcher avec Dieu. Hein. S'il n'y avait pas Dieu, il y a longtemps que j'aurais tout laissé tomber. Si je n'avais pas ce dialogue avec le Saint-Esprit, il y a longtemps que j'aurais laissé tout tomber. Mais vraiment, moi, il y a des gens formidables dans l'Église. J'ai rencontré les meilleurs. Osborne, Raphaël, Vikram Sel, le Cossack, tous ces gens extraordinaires. Mais bon, et puis vous, mes frères et sœurs, vous allez dans le monde, c'est très rigolo dans le monde, c'est très amusant, c'est très distrayant. Si c'était pas Dieu, il y a longtemps que j'aurais tout laissé tomber. C'est pourquoi il faut accepter que le Saint-Esprit vous guide à l'intérieur de vous-même, déjà pour que vous sachiez qui vous êtes et que vous puissiez mettre cette pierre qui est vraiment vous, qui va venir s'ajouter à la construction de Jésus, qu'il la mette vraiment en évidence, qu'il la révèle réellement. Il faut vraiment que vous acceptiez ce voyage. Ça fait chaud, ça brûle. Même le Saint-Esprit est un feu aussi. Hein, il brûle des tas de choses. Il y a des scories, il y a des machins qu'il faut éliminer. Mais il y a un but. C'est que nous devenions comme Christ. Vous le verrez parce que vous serez comme lui. C'est ce que la Bible dit. Alors ça vaut toutes les peines du monde. Ça vaut toutes les peines du monde. De ce monde qui de toute façon passe. Et nous, la Bible dit, nous demeurons éternellement. Amen. Amen. Merci Jésus pour cet enseignement. Merci et veuillez aider chacun et chacune à comprendre bien ces choses, et je te remercie pour cela. Je te remercie aussi pour tous ceux qui ont écouté les prédications ces derniers temps et qui ont fait des dons. Je veux les bénir en ton nom. Je te remercie, mon Dieu, parce que celui qui donne, il reçoit selon ta promesse. Et je te bénis, mon Dieu. Bientôt, nous allons recevoir un de tes serviteurs qui vient d'Afrique. Nous allons pouvoir l'aider et je te remercie pour ça. Et je te remercie parce que nous allons pouvoir vraiment l'aider grâce à tous ces dons. Que ton nom soit béni, Jésus, et que ces gens qui ont donné soient bénis. Et vous qui écoutez, donnez encore davantage afin que nous puissions faire davantage. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Et pardon, parce que j'ai rigolé de la terre plate, mais voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Vous pouvez croire que la terre est plate, vous serez toujours mes amis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.